un peu un état des lieux des pratiques en France aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Thierry Renard qui va vous présenter ses invités. Cette table ronde est consacrée au rôle des lieux et manifestations de poésie.
Merci Vincent. Donc dans le cadre de ce marché de la poésie et des états généraux de la poésie, j'ai le plaisir de réunir quelques-uns de nos invités de marque, c'était une blague, c'était pour vous détendre, non mais c'était pour vous détendre. On va essayer de réfléchir, de dialoguer autour de cette question des lieux, de la poésie, des espaces offerts à la poésie. Et je vais vous présenter rapidement les invités et leur laisser, bien entendu, ensuite la parole pour un complément de présentation d'informations. Alors, j'y vais. Donc, Annie Estève, qui est tout de suite à côté de moi, et qui est la directrice artistique de la Maison de la Poésie Jean Joubert à Montpellier. Donc Annie, je vais vous présenter chacun, puis je reviendrai vers toi. Tu nous raconteras un petit peu ce qu'est la Maison de la Poésie Jean Joubert. Nelly Georges Picot, qui depuis plusieurs années maintenant s'occupe de la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Elle en est la secrétaire générale. Marc Delouze, qui vit aujourd'hui, et je pense qu'il nous a demandé de le souligner, on abordera aussi la question en dehors des lieux même de la poésie, des territoires et des lieux des uns et des autres. Marc Delouze, poète, fondateur des Parvis poétiques, qui vit entre Paris et Fécamp. D'ailleurs, la Normandie me paraît surreprésentée. Sandrine Gironde, qui a initié depuis 2014, je crois, Poéma, qu'elle définit comme un événement autour des écritures poétiques contemporaines. Et Poéma intervient plutôt dans la région Grand Est. C'est ça. Et enfin, celui dont j'ai peur d'écorcher le nom, Patrick Verschuren, j'ai bien dit ? Ah ! Ça, j'essaye de répéter depuis hier, Patrick Verschuren, je n'ai pas l'accent flamand, il se trouve qu'il a un diplôme d'ingénieur, mais, c'était marqué dans ta présentation, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui par rapport à cette table ronde, c'est qu'il a surtout fondé, c'est assez récent d'ailleurs, en 2015, ce qu'il a appelé la Factory et qui est aujourd'hui la maison de poésie de Normandie. Voilà, on a fait un petit tour des lieux des uns et des autres. On va donc dans l'ordre que je viens de vous proposer, on va reprendre la conversation et on commence par Annie Estève.
Eh bien voilà, donc, comme vous l'a dit Thierry, j'ai le plaisir de diriger la Maison de la Poésie Jean Joubert à Montpellier. C'est une maison poésie qui bénéficie d'un lieu depuis 2010, puisque nous avons fondé une structure que nous avons appelée Maison de la Poésie dans l'espoir justement d'obtenir un jour un lieu. Nous l'avons fondée en 2005. Et de 2005 à 2010, nous avons organisé des événements autour de la poésie contemporaine, de manière nomade, mais ces années-là ont été des années extrêmement fructueuses puisqu'elles nous ont permis de tisser des partenariats que nous gardons aujourd'hui et qui sont les partenariats avec l'ensemble des lieux culturels, notamment le réseau des médiathèques de l'agglomération de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole, la métropole, les théâtres, les musées comme le musée Fabre, le musée Paul-Valéry à Sète, les galeries d'art, l'opéra orchestre, etc. Donc ces partenariats nous ont permis de faire exister la poésie pendant, sur tout le territoire pendant 5 années. Et au bout de 5 ans, donc, ayant fait nos preuves, nous avons obtenu un lieu, alors qui est un lieu tout à fait modeste, hein, puisque la jauge est de 50-60 personnes pour les pompiers, mais qui a cet avantage d'être complètement à nous, puisque la ville de Montpellier l'a mis à notre disposition de manière gratuite. Et voilà, et donc nous pouvons organiser à notre rythme les rencontres poétiques que nous souhaitons. Et ce qui a évidemment, on en reparlera tout à l'heure, un immense avantage, nous sommes une association et bien entendu ce lieu n'est pas simplement le lieu où se déroule la programmation que nous mettons en place, mais c'est aussi un lieu de vie dans lequel les poètes peuvent se rencontrer, on peut rencontrer les poètes, on en reparlera. Hein. Il y a une bibliothèque, il y a des activités comme les ateliers d'écriture, ce qui veut dire que le lieu de poésie, bien évidemment, quand nous l'avons fondé, il y avait derrière l'image subliminale, on va dire, de la maison de la poésie fondée par Pierre Segers et Pierre-Emmanuel à Paris, bien sûr, mais c'est resté un vague modèle, et maintenant, c'est quelque chose qui... fait exister sur le territoire montpelliérain la poésie de manière régulière et d'une manière maintenant, on va dire, habituelle. Voilà, avec ce double aspect, bien évidemment, développement d'une programmation et aussi lieu de vie autour de la poésie. On y revient tout à l'heure puisque la présentation doit être brève.
Alors, juste une petite précision, Annie dit que le lieu est modeste, c'est un très beau lieu.
Ah, c'est un très beau lieu, c'est le Moulin de l'Évêque, il est daté, c'est un bâtiment qui date du XVIIIe siècle et qui abrite également les locaux du Festival du cinéma méditerranéen. Nous sommes mitoyens, voilà.
Et la Maison de la Poésie de Montpellier, enfin Jean Joubert maintenant, puisqu'elle se nomme ainsi, organise aussi le printemps des poètes.
Absolument, oui, ça fait partie de notre des missions de notre programmation. Donc, le festival que nous organisons, c'est celui que nous organisons au moment du printemps des poètes à Montpellier, qui s'appelle d'ailleurs le printemps des poètes à Montpellier. Voilà. Et le nom de la Maison de la Poésie, juste cette précision, Maison de la Poésie Jean Joubert, parce que Jean Joubert était un poète, membre de l'équipe fondatrice, qui a été le président de notre structure jusqu'à son décès en novembre 2015. Et donc la mairie de Montpellier a décidé de lui rendre hommage en donnant à ce lieu, qui est un lieu municipal, le nom de Jean Joubert.
Merci Annie. On aura le temps de développer un petit peu les projets des uns et des autres. Alors Nelly, Georges Picot, la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Tu complètes la présentation.
Alors, la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Il faut que je le tienne bien. la Biennale des poètes en Val-de-Marne est née c'était en 91, donc il y a presque 30 ans à peine, mais elle est née en fait d'une volonté, d'un désir d'un poète qui est Henri Deluy, qui a œuvré beaucoup dans le domaine de la poésie, qui a dirigé des collections de poésie, qui était un des membres fondateurs de la revue Action Poétique, qui a été la plus vieille revue française. Elle s'est arrêtée il y a quelques années, mais c'était la revue Action Poétique s'est arrêtée, elle avait 60 ans. Elle était née à Marseille avec des gens prestigieux. Elle est née après les Cahiers du Sud, mais bon, ce serait une longue histoire autour de Jean Ballard. Et donc Henri Deluy a animé cette revue toute sa vie. Et il était directeur de la médiathèque à Ivry-sur-Seine. Il a eu envie de faire connaître la poésie internationale, la poésie étrangère, qui était très peu connue encore il y a une trentaine d'années, qui commençait à être connue justement à travers la revue Action Poétique, quelques revues, mais qui était quand même assez mal connue. Et donc, il en a parlé. En fait, cette biennale est née donc du désir d'Henri Deluy et de l'Assemblée départementale, que présidait à ce moment-là quelqu'un qui s'appelait Michel Germa et qui était un ancien typographe et passionné de poésie. Voilà, c'est né comme ça. Et donc c'est une association qui a été vraiment portée par le département du Val-de-Marne. La Biennale, comme son nom l'indique, organise tous les deux ans un festival international de poésie, pendant lesquels elle invite, qui durait au départ plus de 15 jours, qui est un petit peu plus resserré aujourd'hui. On en parlera plus tard pour des raisons.
On en reparlera. Oui, voilà. Peut-être nous dire simplement pour achever la présentation. Nous dire que fait la Biennale.
Oui, oui. Donc, un festival international de poésie.
En dehors de la Biennale.
Les années interbiennales, une rencontre européenne de poésie. Et toute l'année, elle fait vivre, elle organise des rencontres dans les milieux scolaires, donc collège, lycée, même dans les petites classes, université. On fait beaucoup de choses avec l'université de Paris de Créteil. À l'occasion, elle fait venir des poètes dans les prisons, notamment à Fresnes, quelquefois dans les hôpitaux. Donc elle a une activité assez intense toute l'année. Et puis, depuis quelques années, parce qu'on a un nouveau lieu qui nous le permet, on organise des rencontres mensuelles, une à deux fois par mois même, des rencontres avec des poètes dans nos locaux, et on peut y accueillir entre 40 et 50 personnes. Voilà. Et puis elle a on a aussi toute une activité d'édition. On publie des recueils, des anthologies et une revue depuis 3 ans qui s'appelle Zone Sensible et que vous trouverez sur le stand
de la Fédération Mepo, européenne des maisons de poésie, voilà. Mepo. Voilà. Merci Nelly. Marc Delouze, donc je l'ai dit tout à l'heure, poète et inventeur d'éparvis poétiques. Je crois que c'est parmi nos invités celui dont le lieu, enfin l'espace poétique est le plus ancien.
Oui,
c'était pas,
oui,
c'était pas désobligeant, Marc.
C'est le privilège de l'âge, oui. Non, bah, écoute. Oui, bah, bon, bonjour. Alors, tout d'abord, les mots pour expliquer ce qu'on fait, c'est important. Mais montrer ce qu'on fait, c'est peut-être plus important, des fois. Donc, j'ai pensé que pour illustrer ce que je vais vous dire là, en quelques mots, déjà présenter les parvis poétiques, rien de tel que vous offrir quelque chose. Margot Barnou, petite fille de poète par ailleurs, et également ma assistante pour les parvis poétiques, va passer parmi vous, il va vous distribuer des sortes de petites friandises poétiques. On est à peu près à l'heure de l'apéro, donc c'est le moment ou jamais. Vous n'en prenez qu'un, parce qu'il y en a à peu près un pour tout le monde, je crois. Voilà, donc c'est des petits très courts poèmes qui s'intitulent « Petits poèmes post-it », des quasi-haïkus. Voilà, donc vous restez avec et puis vous en faites ce que vous voulez, vous le mettez dans votre porte-monnaie. Alors voilà, les parvis poétiques, oui, effectivement, j'existe depuis 1982. Très rapidement, en fait, pourquoi je crée les parvis poétiques ? Il y a deux raisons à ça. D'une part, lorsque j'ai publié mes premiers livres dans les débuts des années 70, j'ai participé, comme tout jeune poète, à un certain nombre de lectures, d'événements poétiques, enfin de rencontres, je dirais plutôt qu'événements. Et j'étais effaré par la tristesse de ces rencontres, par le peu de public que ça pouvait toucher. Moi, je venais, j'avais une double expérience à la fois de militants politiques dans les années 60-70, et également, j'ai travaillé dans un groupe de théâtre, on tournait un petit peu partout sur les comités d'entreprise dans les années 70, et lorsque je me suis trouvé confronté dans ce milieu de la poésie, j'ai trouvé ça absolument effarant, surtout que j'ai toujours eu le sentiment, et je l'ai toujours plus que jamais, que la poésie est a priori faite, écrite, pour s'adresser principalement à ceux qui ne la lisent pas. Donc comment arriver à combler cet énorme hiatus, hein, ce quiproquo quelque part. Donc j'ai créé les parvis poétiques. Les parvis, c'est ce lieu, vous savez, au Moyen-Âge, où avaient lieu les représentations de la Passion du Christ. Donc les grands prêtres sortaient des cathédrales et le peuple les retrouvait là pour une grande fête qui les réunissait. Voilà. Donc, les parvis poétiques, bah, j'essayais de sortir un petit peu les grands prêtres poétiques de leur cathédrale, ou de leur petite chapelle plutôt, et de façon à ce qu'ils rencontrent un public sur un lieu intermédiaire ou sur le lieu où il y a le public. C'est des choses qui se font maintenant, je dirais un petit peu plus couramment, mais c'est vrai qu'en 82, 83, c'était peut-être un petit peu moins évident, et surtout que ça impliquait des choses techniques, etc., etc., et puis bien sûr des moyens. Voilà, donc c'était la raison pour laquelle j'ai créé les parvis poétiques. Et puis, il y avait une autre raison aussi, c'est que j'ai fui le milieu poétique à un certain moment. Hein. Bon, ça, c'est mon histoire personnelle en tant que poète. J'ai disparu pendant 20 ans en tant que poète, proprement dit. Mais en même temps, j'avais toujours eu envie de participer à ce qui me semblait comme ça si frustrant. Voilà. Ce non-rapport entre la poésie et le public. Donc j'ai créé le parvis poétique. J'ai eu le temps de le faire parce que je n'ai pas écrit pendant ce temps-là, pendant 20 ans. Et puis ensuite, bon, j'ai réussi à recoller les morceaux, d'ailleurs en grande partie grâce à un éditeur, La Passe du Vent.
On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Ça, c'est un autre, voilà. Donc non, mais c'est très important parce que les parvis poétiques, c'est le projet d'un poète. Ce n'est pas le projet d'une animation. C'est tout. J'ai rien contre l'animation, mais non, c'est non, le projet d'un poète. Mais c'est pour aller jusqu'au bout de son travail de poète. Voilà.
Merci. Alors, Sandrine Gironde, un projet assez récent par rapport à celui de Marc. 2014, Poema. Peut-être nous en dire un peu davantage, une présentation, un complément d'information.
Bonjour. Alors, Poema est un événement autour des écritures poétiques d'aujourd'hui, plus précisément autour de la poésie contemporaine, qui agit principalement, en tout cas qui agissait principalement dans la région Lorraine. Or, comme notre région s'est agrandie et est constituée maintenant de 3 anciennes régions, Poema agit sur la région Grand Est, donc avec incluant l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, et avec des actions également avec des partenaires au Luxembourg, en Allemagne, et puis le marché de la poésie de Paris dans le cadre de périphérie. En fait, nous ne sommes pas du tout une maison de la poésie, on est un festival exclusivement et complètement itinérant. Poema réunit chaque année une cinquantaine de partenaires qu'on va chercher dans cette grande région, des partenaires qui donc sont des structures dédiées aux livres, type librairie, médiathèque, bibliothèque, médiathèque départementale, des lieux, librairies, ouais, je l'ai dit, des lieux dédiés aux spectacles vivants, tels des centres culturels, scènes nationales, des lieux dédiés à l'art contemporain, tels que des écoles d'art, Pompidou, Metz, par exemple, et puis des lieux dédiés à l'éducation, tels que collège, lycée, etc. Avant tout, pour défendre la création poétique, la création littéraire et la diffusion de la poésie dans divers territoires urbains et ruraux et en direction de tous les publics.
On ira un peu plus loin après ce tour de table. Patrick Verschuren, La Factory, c'est quoi ?
Eh bien, La Factory, c'est une maison de poésie aussi. On l'a créée il y a peu, ça a été créé en septembre 2015. Donc c'est une maison toute jeune, toute nouvelle. Je vois que la Normandie est bien représentée et que la Normandie aussi est une terre d'accueil puisqu'on a quand même accueilli Marc Delouze, ce qui est quand même une preuve que c'est une terre d'accueil et qu'il y a des jeunes poètes comme Laradoff qui est ici présente et qui montre aussi qu'il y a beaucoup une belle émergence de la poésie dans la Normandie. Alors, ce qui est singulier peut-être dans cette maison de poésie, c'est qu'elle ne vient pas des poètes eux-mêmes. Elle n'est pas une émanation des poètes, même si c'est un endroit vraiment d'accueil pour la poésie. La base, c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre Éphéméride, qui avait un lieu, qui a toujours ce lieu d'ailleurs, qui est une ancienne fabrique de pâte à papier située sur une petite île à 25 km de Rouen. C'est un lieu absolument fabuleux, une île de 8 hectares, une vieille fabrique très très belle. Et nous avons pendant 12 ans fait un festival qui s'appelait Place à la poésie pour le compte du département de l'Eure. Et quand on a décidé d'aller un peu plus loin en poésie, c'est-à-dire de faire des rencontres plus régulières, pas seulement pendant le mois de mars, mais tout au long de l'année avec des poètes, décidé aussi d'organiser beaucoup plus de choses en matière de poésie et de créer même des formes spectaculaires de poésie. En en parlant avec Jean-Pierre Siméon, en en parlant avec Jacques Fournier, ils nous ont dit « Mais pourquoi vous ne faites pas une maison de poésie ?» Et là, on regardait un petit peu les élus autour de nous et on se disait « C'est surtout pas le moment de créer des maisons, c'est un moment très difficile. La région, ça les effrayait de créer des structures. » Enfin, tout le monde avait peur. Et puis, on a dit « Mais oui, on va faire cette maison. On va créer cette maison de poésie parce que ça nous semble fondamental aujourd'hui de défendre la poésie. » C'est-à-dire un endroit où on invente, une langue qui s'invente et qui soit très réactive par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui. On trouvait que le théâtre était lent dans son mode de production, qu'il fallait parfois 2 ans, 3 ans pour créer un spectacle, et que la poésie était beaucoup plus capable de réagir, d'interagir avec ce qui se passe, et un lieu de rencontre et un vrai lieu de partage. Juste une petite anecdote en lien avec ça. Nous avions joué un spectacle à Troyes, au théâtre de Troyes. Et donc, en tant que compagnie de théâtre, on arrive le matin, on monte le décor, on installe le décor. Et puis le soir, on a joué notre spectacle. Et après, on nous a dit, si vous voulez, il y a un verre de champagne qui est offert au bar du théâtre, au foyer du théâtre. Formidable. On va au foyer du théâtre et nous étions tout seuls. Il n'y avait personne, il y avait juste les comédiens et personne, pas de public. Alors on se dit, c'est quand même dommage, on a fait beaucoup de kilomètres, on est venu ici, on n'a jamais rencontré le public. Et je vois derrière, à la porte dehors, des gens qui sont les spectateurs. Donc je descends et je vais demander aux spectateurs de venir un petit peu avec nous. Et le directeur de la tête me dit, on n'offre pas le champagne à tout le monde. Et je dis, mais on s'en fiche du champagne. On est là pour qu'il y ait un partage, pour qu'il y ait une rencontre. Et 2 semaines après, on était invité à souffler de la poésie dans les oreilles des gens, dans un village d'Eure-et-Loir. Et on a rencontré 200 personnes en faisant ça. On n'avait pas de préparation particulière, on avait juste à mettre un petit costume, préparer les tuyaux, quelque chose de très simple. Donc les comédiens étaient totalement disponibles, on a travaillé l'après-midi et le soir, tout le monde venait au resto avec nous et c'était vraiment un moment de partage. Donc j'ai trouvé que la poésie était plus juste aujourd'hui, qu'il nous fallait ça, qu'il fallait sortir du spectaculaire et avoir des choses beaucoup plus spontanées et en lien avec les gens. Ça a commencé comme ça.
Merci. Alors j'avais prévu de vous interroger sur la nécessité qui a conduit tous ces projets à naître. Bon, pour certains, vous y avez déjà en partie répondu, mais on peut peut-être aussi, c'est une double question en fait, s'interroger aussi sur la place du poète dans chacune de vos aventures. Comme ça, pour celles et ceux qui ont déjà un petit peu répondu à cette question de la nécessité, la nécessité au sens large, c'est la nécessité... Pourquoi ce projet est-il né? Mais c'est aussi, est-il né d'une volonté politique? C'est là que peut-être les réponses divergent. Ou est-il né de la volonté, je pense à Marc, d'un homme, par exemple? Bah, qui veut prendre la parole, la prend.
Je veux bien.
Ah bah tu peux.
Non, je veux bien parce que tout à l'heure, bon, c'est vrai que je n'ai pas du tout abordé ce thème-là, et donc ce que je voulais dire, c'est que pour la naissance de la Maison de la Poésie, qui s'appellera donc Maison de la Poésie Jean Joubert, il y a 3 personnes à l'origine, et c'est l'histoire d'une amitié entre ces 3 personnes. Donc il y avait moi-même, enseignante, en collège, avec un projet pédagogique qui était quand même assez important, puisque... C'était le temps où on pouvait mettre en place dans l'éducation artistique, justement, des projets de grande envergure. Donc, j'avais mené une classe pilote avec un atelier de pratique artistique un peu différent des autres, qui était un atelier théâtre-poésie, et dans lequel il était question non seulement de théâtre avec des comédiens, mais aussi de mise en voix des textes poétiques, d'ateliers d'écriture et de rencontres avec les poètes. Et les participants à ces classes et à ces ateliers avaient tout de même une lourde charge horaire de 9 heures d'ateliers par semaine. Hein. Donc avec un objectif à la fin qui était de produire ce qu'on pouvait appeler un spectacle, mais en tout cas montrer les productions de ce travail. Et là, j'étais entourée de personnes formidables. Donc, j'ai pu inviter au sein de l'école, c'était dans les années 90, j'ai pu inviter au sein de l'école des poètes. J'ai pu inviter, vous savez, des comédiens qui étaient là pour assurer, évidemment, la partie artistique, l'éducation artistique à la mise en voix des textes. Et puis, on invitait également des artistes, des plasticiens. Donc, moi, je dis, le projet, il est né au sein de l'école parce qu'un des poètes les plus actifs avec nous dans ce travail, ça a été Jean Joubert, qui était un poète qui, lui, partait avec son bâton de pèlerin pour rencontrer les jeunes dans les écoles et qui avait vraiment la foi dans ce que pouvait être effectivement la transmission et qui soutenait énormément toutes sortes d'initiatives. Donc, il allait dans toutes sortes d'établissements scolaires. Et là, il y a eu un attachement particulier au collège dans lequel il travaillait pour ce projet. Et donc, c'est vrai que quand je lui ai proposé de fonder une maison de la poésie, il a été tout de suite enthousiaste. Et ce qu'il y a de beau dans l'affaire, c'est que la troisième personne, c'est une libraire qui tenait la librairie la plus courue de Montpellier, dans laquelle elle organisait des rencontres littéraires. Ça se faisait un peu à l'époque, mais pas tant que ça. Et dans laquelle, justement, on croisait très souvent des poètes. Et cette libraire est à l'origine aussi de la fondation de la Comédie du Livre, le grand salon du livre montpelliérain. Donc elle a fait partie de l'équipe fondatrice, l'équipe qui a proposé cet événement. Donc, si vous voulez, il y avait cette triple particularité, les écoles. Et on a gardé, bien évidemment, le lien avec les établissements scolaires et avec l'université. Donc, on est très, très attaché à la transmission dans les écoles. On a un partenariat avec un lycée, un partenariat avec une école primaire et un partenariat avec l'université Paul-Valéry à Montpellier. Voilà. Et puis, bien entendu, si vous voulez, les choses se sont faites après assez naturellement puisque les énergies se sont rassemblées et le projet est né de cette façon. Et donc, je ne sais plus en plus quel était le développement de la question, mais c'est vrai que à l'origine, la place du poète, elle était centrale, évidemment, hein, mais c'était bien évidemment le lien. Le poète n'est pas dans sa tour d'ivoire, le poète est au plus près du public et le poète est au plus près des jeunes. Et il fallait absolument, c'était assez rare hein, quand même à l'époque, les rencontres des auteurs dans les classes. Et je pense qu'on a été assez pionniers sur cet événement-là. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que la fondation de la Maison de la Poésie, elle a coïncidé quand même avec ce mouvement auquel on assiste depuis une vingtaine d'années et qui est la montée en puissance de l'oralisation du texte. Ça, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que créer une Maison de la Poésie, qu'est-ce que ça veut dire la poésie ? Est-ce que c'est un genre littéraire ? On ne va pas entrer dans le détail des définitions de la poésie au sens intellectuel ou poétique même, mais quand vous demandez aux institutions d'aider à fonder une maison de la poésie, est-ce que c'est un genre littéraire ? Ça ne peut pas être simplement un genre littéraire, on ne crée pas une maison pour un genre littéraire. On crée une maison de la poésie parce que la poésie, c'est aussi une pratique sociale et c'est aussi un art vivant. Et là, on rejoint évidemment le théâtre, bien entendu, on rejoint les grands comédiens qui ont toujours prêté leur voix aussi aux grands textes. Et puis, on rejoint ce mouvement de fond qui est le poète qui porte lui-même son texte. Et ça, c'est magnifique. Et je crois que ce à quoi on assiste depuis quelques années, où on voit les poètes dire eux-mêmes leurs textes avec ces moments magnifiques qu'ils nous offrent, extrêmement rares, où la parole poétique comme ça circule, c'est la mutation essentielle de la poésie pour nous et c'est ça qu'on veut accompagner dans le projet. C'est-à-dire, voilà, et donc à la Maison de la Poésie, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute les poètes avant tout et bien entendu, on rencontre les poètes aussi.
Peut-être Patrick, de quelle nécessité la factorie a-t-elle pris naissance et aussi quelle place occupent les poètes dans le projet de la factory ?
Bon, je l'ai un peu dit tout à l'heure, j'ai un peu débordé sur le sujet suivant, excuse-moi.
Non, tu peux poursuivre.
En fait, je dis la poésie est absolument nécessaire et surtout le rapport beaucoup plus direct à la parole, à la langue, me paraît fondamental. Et l'invention est nécessaire dans une période où on a besoin de voir les choses devant nous, inventer. Et dans ce sens-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait, à travers ce qu'on faisait nous, aller dans les endroits les plus divers, aller dans des petites salles, dans des petites bibliothèques, aller partout, toucher des publics qui ne pouvaient pas être touchés par l'univers du théâtre. Donc ça, c'était quelque chose de très intéressant. Oui. la place...
Tu es plus fort que les cloches. Ouais. Vas-y.
Pour qui sonne le glas. Et donc, la place de cette... Ouvrir cette maison, c'est donner la place aux poètes. L'objectif, c'est de dire, c'est une maison pour tous les poètes. Et ce qui était singulier à travers ça, c'est de dire aussi qu'à la fois, c'est un lieu de travail, un lieu de résidence, un lieu ressource avec poétothèque, enfin tout ce que vous voudrez, mais c'est un lieu de base aussi. C'est la base arrière. Et après, on va se promener dans toute la Normandie. On essaye d'aller dans tous les loin, les coins reculés de la Normandie pour porter la poésie. On fait du lobbying auprès de tous les festivals pour que la poésie ait sa place. Il y a des organisations de rencontres, de lectures et de choses comme ça qui sont faites avec des romanciers, avec des grands comédiens. Et il est très rare qu'il y ait de la poésie. Et l'argument souvent donné, c'est oui, mais la poésie, ça fait déplacer personne. Or, on a montré, nous, à travers notre travail et dans tous les festivals qu'on avait fait avant, qu'avec la poésie, on déplaçait largement autant de personnes qu'eux, qu'il n'y avait aucun souci. Et que ce n'était pas la célébrité de l'auteur qui posait question, c'était la façon dont les choses étaient transmises et la façon dont elles étaient communiquées avec les gens. Comment on travaillait en harmonie avec eux. Donc c'est une maison de poésie, mais c'est aussi un lieu de production, un lieu de résidence, résidence ouverte à tous les gens qui font des formes originales. On aime bien aussi les formes originales, des réparatrices d'espace urbain, par exemple, ça nous semble fondamental, il faut réparer l'espace urbain. Il y a aussi la possibilité de travailler, parce qu'il y a un studio d'enregistrement, donc de travailler avec le son. C'est un, voilà, le son, on peut travailler le son.
Je suis désolé de t'avoir fait ce cadeau.
Ah, c'est un cadeau. Donc, on travaille le son aussi. L'idée, c'est de travailler aussi avec des formes visuelles. Pourquoi pas des web-séries, d'inventer plein de choses par rapport à la poésie et la faire passer dans différents canaux qui ne sont pas forcément notre corps de métier, qui était l'univers du spectacle vivant. Et le lien avec la poésie, la musique, bien sûr, on le défend très fortement. Et je ne sais pas si Marc me dira le contraire, mais je crois qu'Aragon aimait beaucoup le lien entre la poésie et la musique.
Ben alors du coup, on va passer la parole à Marc pour que tu poursuives.
Oui, là, je trouve que c'est génial parce qu'on a exactement un exemple de ce à quoi il faut se confronter en poésie. C'est-à-dire que ou bien on est dans notre petit cocon, ou bien on est d'une certaine façon à l'extérieur de ce cocon avec les perturbations éventuelles qui peuvent être sociales, mais qui peuvent être sonores, la preuve. Et d'ailleurs, dès qu'il y a eu les cloches et que tu as parlé, tu as forcé un peu la voix, j'ai l'impression que ça a un peu réveillé. Tout de suite, ça met de l'animation. Ça fait partie de l'animation, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà. Je dis ça parce que, effectivement, la place des poètes, je ne sais pas, mais la place de la poésie, c'est surtout ça. Je pense que j'ai une conception de la poésie qui n'est pas auto-centrée. Je veux dire que la poésie est traversée par beaucoup d'activités, par beaucoup d'expressions artistiques, mais pas seulement, et elle traverse aussi des expressions artistiques. Beaucoup d'écrivains, beaucoup de qui ne sont pas forcément des poètes, des cinéastes, j'ai travaillé avec Maggie Marin, elle ne conçoit ses chorégraphies que dans un rapport avec ses lectures de poésie. Ce qui explique aussi l'importance de la poésie qui dépasse de loin le petit nombre d'exemplaires qui peuvent être vendus de plaquettes ou de livres, etc. Parce que pour un livre qui circule, notamment auprès de relais, en quelque sorte, ça touche un public beaucoup plus vaste, mais qui ne le sait pas forcément que ce qu'il voit, ce à quoi il assiste, en musique, en théâtre, en peinture, etc., vient de la poésie. Donc, et ça, c'est intéressant, c'est important. J'ai toujours fait en sorte de faire que ça soit visible dans les événements que j'organise. C'est-à-dire que j'ai fait traverser la poésie de tout un tas de... La première manifestation en 83, c'était à Martigues, ça s'appelait les Parvis Poétiques de Martigues. J'ai travaillé avec des vidéastes, même avec... on avait les premiers ordinateurs qui étaient en accès libre dans le public, dans la rue, avec écriture, avec Jean-Pierre Balpe, etc. Et puis, on a travaillé aussi, par exemple, avec Pierre Bourdieu, qui nous a préparé tout un travail sociologique sur la vision de la poésie, comment les poètes se voyaient et comment ils étaient vus, et le rapport entre ces deux choses-là. Voilà, donc ça c'est une chose importante. Alors bien sûr, les choses qui sont un peu bateau depuis, c'est-à-dire la musique, la danse, je travaille des clowns, etc. Ça c'est une chose. Deuxième chose, dans des lieux. C'est vrai que les parvis poétiques, on est itinérants, hein, on est des romanichels. Je veux dire, on n'a pas de lieu, et je n'ai jamais voulu avoir de lieu, de même que je n'ai jamais voulu avoir un cahier des charges. On a fait ce qu'on avait envie de faire, là où on avait envie de faire, avec ceux avec qui on avait envie de faire. Et quand on n'a pas envie, on ne fait pas. Voilà. Mais quand on fait, effectivement, le problème, peut-être on y reviendra, mais le problème financier, il faut toujours se débrouiller pour avoir les moyens de façon à payer tous les gens qui participent. Bon, je sais que depuis les quelques près de 500 poètes que j'ai pu programmer depuis 35 ans, tous ont toujours été payés pour le travail qu'ils produisaient et tous les gens qui ont participé. Voilà. Petit corollaire, évidemment, l'entrée est libre parce que je considère que c'est des subventions que les gens ont déjà payées sous forme d'impôts. Parce que les subventions, c'est les impôts. Donc, je ne vais pas faire payer une deuxième fois au public. Voilà, un peu comme ça se passe ici, d'ailleurs. Hein. On n'est pas payé, mais enfin, vous, vous ne payez pas non plus pour assister à ça. Bon, ben, là, je m'arrête peut-être, parce que sinon, je suis très bavard. Je reviendrai.
On reviendra, je reprendrai la parole.
Voilà. Ah, une chose importante, je veux dire. Très important, c'est que tout ça n'exclut pas la chose, à mon avis, fondamentale. Vraiment fondamental, c'est que ce qu'on doit présenter doit être le meilleur en poésie. Et moins les gens connaissent, plus il faut leur présenter le meilleur en poésie. C'est-à-dire, vous savez, il y a un truc, je me souviens, parce que dans les années 70, 80, ça se faisait, tiens, on va aller dans les banlieues, ça se faisait déjà, les banlieues, bah, ou les enfants, etc., on va leur balancer du Prévert, du Tardieu, encore que c'est une vision un peu bizarre, parce que, parce qu'en plus, je veux dire, si vous présentez certaines choses qu'on considère un petit peu comme le degré un peu zéro ou plus bas, si vous voulez, de la poésie, ils le savent très bien, ils le sentent très bien que c'est pour eux qu'on leur présente ça. Je veux dire, moi, j'ai fait des rencontres entre Bernard Noël et des gens qui étaient quasiment des analphabètes, hein, des gens qui étaient véritablement en hôpital de jour, il s'est passé vraiment des choses très fortes. Bon, mais effectivement, dans des lieux adéquats et dans des formes adéquates. Hein, que c'est ce que je dis toujours en résumé. C'est élitaire dans le contenu, mais tout à fait populaire dans la forme. Ça, c'est important.
Merci, Marc. Alors Poéma, on revient dessus, puis on revient sur de quelle nécessité le projet est né, et puis la place du poète ou des poètes.
Donc pour moi, la poésie n'est pas une nécessité. Ou si elle en est une, c'est pour nous convaincre ou nous motiver à être dans l'action. Non, en fait, on est entre nous, donc peut-être qu'on peut se dire que la poésie entre nous est une nécessité. Moi, je pense qu'elle est juste importante. Elle est juste importante. Quand on va en territoire rural et qu'on invite un poète devant une trentaine, une quarantaine de personnes, je ne pense pas qu'on puisse défendre auprès de ce public l'idée que la poésie est une nécessité. L'important, c'est juste l'idée, enfin, plus qu'une idée, c'est l'acte de se rencontrer, voilà, autour de la poésie, avec un écrivain, bien vivant, en chair et en os, présent. Maintenant, pour ce qui est de la place du poète, dans Poéma, le poète est la place principale, à la place principale. Pour nous, ce qu'on défend avant toute chose, c'est la présence d'un écrivain. C'est pour ça que dans Poéma, il n'y a aucun comédien qui lit des textes, aucun spectacle dit poétique. Non, ce sont avant toute chose la présence des auteurs, des livres des auteurs, et puis tout le respect qui va avec, c'est-à-dire un accueil important, chaleureux, la présence des livres et le respect des droits d'auteur, bien évidemment.
Ça y est ?
Bah, oui.
Alors, Nelly ?
J'ai déjà évoqué...
Oui, tu as déjà répondu en partie, mais peut-être tu peux aussi...
Et c'est vrai que la Biennale...
Parle peut-être plus fort, parce que je crois qu'on t'entend. Oui. Dans le micro.
En fait... au moment de la décentralisation, les conseils départementaux se sont vus allouer des compétences, notamment culturelles, qu'ils n'avaient pas, c'était en 81, 82. Et donc, à ce moment-là, le conseil départemental, qui est toujours de majorité communiste, mais un petit peu moins qu'avant, a vraiment mis en avant la culture, comme, enfin, a défendu la culture comme un outil d'émancipation voilà, pour tous. Et c'est vrai quand Henri Deluy a présenté son projet de biennale des poètes, il avait aussi envie de que la poésie soit accessible à tous, qu'elle aille, voilà, qu'elle rencontre les différents publics, petits et grands, de différentes origines sociales, etc. Donc c'est vrai que cette volonté d'un poète a été vraiment soutenue par une volonté politique. Voilà, et elle a été complètement soutenue financièrement aussi par un conseil départemental qui soutenait à hauteur de 90%, ce qui est quand même, ce qui était rare, enfin ce qui était, je crois, c'était la seule collectivité locale comme ça qui a défendu aussi de façon aussi importante la poésie. Alors ça ne veut pas dire, parce que c'est vrai que ça peut être un risque qu'une collectivité soit aussi importante dans le fonctionnement d'une association. Les élus font partie du comité, du conseil d'administration, etc. Mais c'est vrai que ça n'a pas été une association transparente, comme on peut le trouver quelquefois, c'est-à-dire juste appliquant ce que la collectivité locale demande, etc. Donc il y a eu quand même une liberté totale dans le choix des poètes et dans la façon de faire connaître la poésie. Voilà. Bon. La place du poète. Alors, moi, je pense pas. Alors, comme Sandrine et la place de la poésie, je pense pas. Pour moi, la poésie n'est pas une nécessité. Alors, je vous indique d'ailleurs qu'on a fait un numéro de la revue Zone Sensible qui s'appelle le thème nécessité de la poésie.
Bah, vous pouvez le trouver sur le stand MEPO pour voilà. Celles et ceux que ça intéresse.
Moi, je pense que la poésie, évidemment, est émancipatrice parce qu'elle est émancipatrice du langage, de la langue usuelle, de la langue uniformisante, etc. Mais je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la poésie est une vraie nécessité. Je pense qu'on peut tout à fait aller à la pêche ou ailleurs. Mais c'est vrai que par le fait même qu'elle nous fait prendre conscience de la langue et qu'elle nous fait voir un petit peu de biais une autre façon de voir le monde, effectivement, elle est émancipatrice et en cela, elle est importante. Mais voilà, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une nécessité parce que ça implique des choses qui voilà. Oui, alors on a une vision un petit peu, oui, peut-être un petit peu différente, mais alors c'est vrai que Francis Combes est directeur de la Biennale, moi je suis secrétaire général, et c'est vrai que Francis Combes parle souvent de poésie comme d'utilité publique. C'est aussi, je pense que ce que le conseil départemental visait à travers ça. Moi, je pense que il faut surtout faire rencontrer le public avec les poètes et qu'il y a des choses qui naissent, mais voilà, c'est pas, on n'est pas dans la nécessité absolue. Voilà. Ceci dit, on défend cette idée que la poésie est vraiment ancrée dans le monde, le poète n'est pas dans sa tour d'ivoire et que la poésie est en lien avec ce qu'on vit, le monde, les événements. On a d'ailleurs fait le premier numéro de Zone Sensible sur poésie et événements, comment la poésie justement dit différemment ce qu'on peut vivre à travers les événements, différemment d'un historien ou même d'un écrivain ou d'un journaliste, bien sûr. Voilà.
Alors, on a déjà fait pas mal, on a déjà abordé pas mal de sujets en peu de temps. On s'était dit qu'on aborderait un sujet, puisque je l'ai entendu de la bouche de Marc, cette question des finances publiques, cette question de l'argent. Il y avait cet après-midi au même endroit un sujet sur l'argent, sur qu'est-ce qu'on fait quand on veut organiser un événement autour de la poésie. Mais on va peut-être élargir le sujet en se posant la question peut-être entre le projet, la philosophie du projet, et la réalité, quel écart, quel grand écart, comment ça se passe, comment faites-vous les uns et les autres pour parvenir à vos fins et pour proposer, inviter, produire des formes, soit de spectacle, soit des formes poétiques. On a parlé aussi de la transversalité, de la poésie dans sa rencontre avec les autres disciplines artistiques, que ce soit la musique, la danse, le théâtre. Alors, entre le projet, sa philosophie et la réalité, que se passe-t-il? Comment ça se passe? Qui veut... Tu veux attaquer?
Parce que ça va être court. Hein.
Ça peut être court.
Non, parce que c'est simple. J'ai un projet qui naît d'une rencontre, je prends l'exemple tout récent, puisque c'est quelque chose qui est en train de se faire. Vu la situation, vu des gens que je connais, des rencontres, parce que je voyage pas mal, je connais bien la Syrie, etc. Et j'ai eu envie de créer une correspondance entre des poètes français et des poètes syriens. Deux qui vivent à Paris et trois qui vivent, une qui vit à Berlin, un qui vit en Syrie, on ne sait pas trop où parce qu'il ne tient pas trop à ce qu'on le sache, et un autre en Arabie Saoudite. Et on a créé pendant 6 mois, ça va s'achever la semaine prochaine, cette correspondance. Correspondance, c'est-à-dire en fait, les premiers envoient des poèmes, ils sont traduits, et en retour, les poètes renvoient un poème, traduit, etc. Voilà la chose. Donc ce projet nous tenait à cœur. C'est un projet sur plusieurs mois. Pour ce faire, on a obtenu une résidence d'un poète qui s'appelle Omar Souleymane, que vous commencez peut-être à connaître parce qu'il a fait, il commence à être un petit peu connu parce que c'est un jeune poète syrien, réfugié politique, très, très talentueux par ailleurs. J'ai fait sa connaissance il y a quelques années sur le marché de la poésie. Et avec lui, donc on a monté ce projet. Évidemment, parallèlement, j'ai monté des dossiers pour trouver de l'argent pour financer ça, pour financer les réalisations des spectacles. On a fait une première rencontre au moment du Printemps des Poètes en mars. Et puis là, la deuxième a lieu la semaine prochaine. Vous aurez des petites invitations là, si vous voulez, devant. Le 14 juin, dans le cadre du marché de la poésie, c'est une périphérie, ça se passe dans le 18e. Et là, vous allez voir effectivement une rencontre entre ces poètes, il va y avoir avec la vidéo d'Arabie Saoudite notamment, et puis du son de Syrie. Et voilà. Et là, si vous voulez, parallèlement à ça, on a organisé un atelier d'écriture. Omar a superviser cet atelier d'écriture, à diriger cet atelier d'écriture avec des réfugiés syriens, qui ne sont pas des écrivains, etc. Donc on fait se rencontrer ces deux versants de l'écriture, versant poétique et versant non professionnel, en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est un exemple de montage. Projet. Et après, je dirais que ça dépend des financements. Le problème, c'est qu'en général, très souvent, on connaît nos financements genre 15 jours avant la réalisation de l'événement, ce qui fait que on ne sait pas trop combien on va payer les gens, etc. Ça c'est les difficultés auxquelles, je crois, pas mal d'entre nous doivent se heurter.
T'as de la chance, des fois, nous, on connaît les financements après.
Hein ? Oui, en toute façon, on les touche après. Et des fois, on les connaît après, effectivement. Mais je voudrais dire quand même une autre chose à ce propos. C'est que, comment dire, la poésie, ce n'est pas une profession. Comment dire, je ne crois pas aux poètes professionnels. Il y a des poètes qui consacrent leur vie à la poésie. Ça n'a rien à voir avec une profession. Ce n'est pas un job, je veux dire. Bon. Mais en même temps, la poésie génère des jobs. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent à tel point que, comme j'ai connu dans les pays de l'Est, j'ai vécu dans les pays de l'Est à une époque, il y a des fonctionnaires de la poésie, il y a des gens qui en vivent pas trop mal en fin de compte, qui sont salariés, pas les poètes, hein, pas les éditeurs, pas les revues, mais il y a des gens qui en vivent, il y a des gens pour qui c'est le métier, et à la limite ils sont des intermédiaires, pourquoi pas, mais je veux dire, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, sur le financement, je sais comment ça se passe, l'essentiel des financements servent à payer les structures, et ça c'est très dangereux. Parce que les structures, ça coûte cher, effectivement. Il faut des loyers, il y a des salaires, il y a ceci, il y a cela. Et en fin de compte, les reliquats servent des fois à payer les artistes, etc., quand ils sont payés, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc je voulais quand même avancer ce petit point-là. Excusez-moi. Oui,
bon, bah, je vais. Alors, je vois que tout le monde veut, presque veut répondre. Annie, peut-être, pour la maison
oui,
Jean Joubert
je
de Montpellier.
Parce que j'ai évoqué le nom d'un lieu, donc d'une structure. Je voudrais. On m'entend ? Oui ? Bon. Alors, je voudrais dire quand même que pour nous, c'est tout le contraire, en fait, puisque l'équipe de la Maison de la Poésie, c'est-à-dire 6 personnes, est entièrement bénévole. Donc, la structure est dirigée par des bénévoles. Et en revanche, tous les poètes que nous invitons sont payés. Tous les comédiens que nous invitons sont payés. Tous les musiciens que nous invitons sont payés. Tout le monde est payé, sauf les gens qui font marcher la structure. Ça, je tiens à le souligner, parce que sinon, vous allez avoir une image fausse de ce qui est fait. Voilà. Et je voudrais dire aussi quand même que la question des financements, c'est la question de la légitimité aussi du projet. Nous, quand nous avons monté le projet Maison de la Poésie, nous avons été extrêmement heureux de voir que finalement, les financements, même modestes, nous les avons obtenus de l'ensemble des institutions. C'est-à-dire au premier plan, il y a eu la ville de Montpellier et la métropole. Il y a eu également le département, la région et le CNL pour l'événement du Printemps des Poètes. Donc, en fait, si vous voulez, je pense que ça, c'est très, très important de voir que le projet auprès des institutions a cette légitimité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de solide qui est là et qui peut effectivement... vous savez, c'est pas rien quand même de donner à la poésie pignon sur rue, je crois. C'est très important, à mon avis. C'est vrai que nous avons été nomades, comme je le disais, pendant 5 ans. Et au bout de ce temps, quand on a pu s'installer dans des murs, en fait, il y a des choses formidables qui se sont passées. Parce que tout à coup, et bien évidemment, c'est un lieu qui appelle à lui d'autres énergies et qui rayonne en même temps. Puisque je vous le disais, les partenariats, nous ne les avons pas abandonnés, loin de là, ça serait bien dommage. Quand on parlait de la fréquentation des lieux de poésie, du public, etc., c'est vrai qu'en général, la jauge de 50, ça suffit amplement pour une rencontre avec un poète, c'est vrai. Et il se passe des choses magnifiques, formidables, etc. Et puis, il arrive qu'on ait besoin d'un peu plus de place. Alors, c'est vrai que, bien évidemment, quand on a lancé notre grand projet, notre besoin de Rimbaud, où pendant 2 ans se sont succédés quand même des conférences avec Yves Bonnefoy, Michel Butor, Alain Borer, etc. On a eu besoin d'un peu plus de place et à ce moment-là, les partenariats nous ont bien aidés puisqu'on a bénéficié du grand auditorium de la médiathèque centrale ou de l'auditorium du musée Fabre. Donc ça, c'est aussi des choses qui étaient possibles parce que, bien évidemment, on est devenu quelque part visible et repéré dans le paysage culturel. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental. C'est vrai qu'on est, content d'y être arrivé. Et justement, alors, je ne vais pas glisser sur la question du caractère essentiel ou pas de la poésie. En tout cas, moi, je dis simplement de la nécessité. Je crois que la nécessité, elle ne se décrète pas. Elle s'éprouve. C'est une affaire personnelle. Chacun le sent ou pas. En tout cas, moi, je pense qu'elle est essentielle parce que j'ai vu les bénéfices humains que la fréquentation de la poésie avait sur les jeunes que je formais. Et je crois que ça, c'est absolument irremplaçable. Donc, moi, c'est pour ça aussi qu'on a fondé une maison de la poésie. Je pense que, effectivement, c'est une manière de percevoir le monde. Et tu le disais, la poésie est émancipatrice et ô combien. Et puis, c'est aussi, bien entendu, une manière d'aller vers le texte pour, effectivement, des populations qui, peut-être, seraient rebutées, effectivement, par d'autres formes de littérature. Donc, une manière d'être au monde, en fait. Hein. Alors, je dois ajouter aussi quand même que dans cette aventure de la Maison de la Poésie, il y a eu des moments forts parce que... et des très, très bons soutiens. Il y a eu Jean-Pierre Siméon qui nous a tout de suite orientés sur, d'ailleurs, la Fédération des Maisons de Poésie, bien entendu, pour qu'on soit membre de cette structure rassembleuse. Et puis, il y a eu quelqu'un à qui je rends hommage aussi aujourd'hui, c'est Frédéric Jacques-Temple, qui était notre parrain officiel et qui nous a ouvert, avec Jean Joubert, nous ont ouvert bien des portes. C'est-à-dire que, bien entendu, la caution de quelqu'un comme Temple, unanimement respecté en tant que poète et en tant qu'homme de radio aussi, ça a été une grande chose. Et puis Jean-Pierre Siméon, bien entendu, aussi. Donc ça, je crois que c'est fort. Alors, il y a aussi quelque chose qui a été créé par le Printemps des Poètes il y a quelques années et qu'on est fiers d'avoir obtenu, c'est le label Ville en Poésie, qui est donné, alors, autour de cette table, je crois que tout le monde, à peu près, a obtenu ce label. C'est-à-dire que c'est une ville qui inscrit dans ses actions, dans sa politique culturelle, qui donne une place à la poésie. Et là, c'est vrai que Montpellier a bien avant nous, d'ailleurs, avait une tradition avec les poètes, les revues de poésie, les associations qui étaient très anciennes. Et bien entendu, quand la Maison de la Poésie a été créée, ça a été quand même un effort, entre guillemets, des institutions vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'on a été la première ville à obtenir le label Ville en Poésie, qui était vraiment utile, je crois, aussi. Hein. C'est quelque chose de bien, on est fiers de l'avoir, ce label.
Nelly, tu voulais répondre
Simplement sur la nécessité de la poésie, oui, bien sûr, je suis bien sûr d'accord avec toi et la nécessité, évidemment, elle est pour soi et c'est très important. Mais pour reprendre la formule de Jean-Pierre Siméon, la poésie transforme le monde.
Sauvera
le monde. Je pense que d'abord, elle transforme notre vision du monde. Elle sauvera le monde, mais elle ne sera pas seule. Je pense qu'il faut être aussi engagé politiquement. Elle ne va pas être toute seule à sauver le monde. Voilà, c'est juste une petite nuance. Et puis alors l'aspect bénévolat, etc. Alors là, je rebondis un petit peu parce que je trouve que c'est important que des maisons de poésie, etc., soient reconnues comme le sont reconnues, peuvent être reconnues des centres d'art et qu'il y ait des gens qui travaillent toute l'année et qui soient rémunérés. Je trouve ça super important. Donc là, je revendique complètement ça. Et c'est le cas de la Biennale. On n'est que deux à plein temps. Mais je trouve qu'on ne peut pas vouloir que la poésie ait une place importante et dire à la fois c'est une affaire de bénévoles ce serait complètement contradictoire. Il faut revendiquer ça. Il faudrait même qu'il y ait des centres de poésie comme il y a des centres d'art. Pourquoi il n'y en a pas ou très peu. C'est une question qu'on peut se poser aussi, après tout.
On verra peut-être que dans les questions avec... vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. On va finir
Il y a un centre de poésie à Marseille, excusez-moi. Oui, c'est le... Le directeur est ici. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a très peu, finalement, il y en a très peu. On parle beaucoup de maisons de poésie, on n'en parle pas beaucoup de centres de poésie. Et je trouve que c'est important aussi.
Alors, on va finir le tour de table, Sandrine ou Patrick, dans l'ordre que vous voulez. Et puis après, on vous laissera, messieurs, dames, la parole.
Très brièvement sur les financements. En fait, nos partenaires, nos nombreux partenaires, cofinancent les actions qu'on met en place. On n'arrive pas, quand on va les rencontrer, on n'arrive pas avec notre petite valise, avec plein de projets. Les projets sont construits ensemble et cofinancés. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, on est soutenu par, même conventionné par la région Grand Est, la DRAC, le CNL, les villes de Metz et de Nancy. Voilà. Enfin, très bref.
Merci. Patrick ?
Mais nous, c'est un peu singulier dans la mesure où, étant lieu de théâtre, on a simplement réussi à faire accepter par les tutelles que l'argent qui était destiné à cet endroit comme théâtre aille vers la poésie. Donc tu vois, Marc, c'est plutôt vertueux. Ce qui est intéressant dans la plupart des expériences, c'est que les maisons de poésie ou les centres, je ne sais pas, sont des lieux proposés par la société civile. En fait, c'est nous qui les proposons. Donc il est très difficile de les faire admettre par des politiques qui, eux, aiment bien imposer quelque chose par le haut et dire c'est comme ça que ça doit se structurer. Donc, il y a une énorme volonté, et c'est incroyable que la poésie continue avec cette vigueur-là, à réussir à imposer, à trouver des territoires et des endroits sans être une volonté politique. Donc, cette maison de poésie n'existait pas en Normandie, il n'y en a jamais eu. On a décidé de le faire, mais c'est finalement nous, société civile, et il y a eu des politiques qui ont accepté cette idée. Alors, peut-être un peu par étonnement. La poésie passe par étonnement. On ne peut pas dire du mal de la poésie. Les politiques ne sont pas contre la poésie. Ils ne savent pas trop quoi en faire, mais ils ne sont pas tout à fait contre. Donc il y a eu cette petite marge un peu assez étonnante, cette place-là, et je crois qu'il faut en profiter, quoi. Il faut aller dans un endroit, dans un territoire qui n'est pas si connu d'eux, et à toute force le développer et le faire entendre, trouver des lieux, des endroits pour que la poésie puisse vivre.
Merci. Ben, on va peut-être vous céder la parole. Je vais descendre. Qui voulait prendre Emmanuel ? Oh ! Je vais essayer de ne pas écraser le chien.
Oui, bonjour. Moi, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup dans tout ce que vous avez dit. Moi, quand j'ai créé le CIPM, il y a une chose qui me semblait extrêmement importante dans une maison de la poésie ou un centre de poésie, peu importe, c'est qu'il y ait une bibliothèque. Parce qu'une bibliothèque, c'est quand même la mémoire, des autres pays, c'est la mémoire de historique, et que la poésie d'aujourd'hui, elle ne peut pas se nourrir d'autre chose que de ça. Bien sûr, aussi des conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui et tout, mais la poésie, elle se nourrit aussi beaucoup de la poésie étrangère, de la poésie des autres temps, et ça me semble essentiel. Ça rebondit sur une question que vous posiez sur les financements, etc. Moi, je suis confronté en ce moment à des graves problèmes de financement avec la ville de Marseille. Je me félicite d'avoir créé, avec cette maison de la poésie, cette très grosse bibliothèque qu'on a maintenant, puisqu'il y a plus de 50 000 documents, et que ça en fait vraiment la plus grosse bibliothèque spécialisée en poésie en France, parce que c'est une espèce de trésor de guerre. C'est-à-dire, le jour où vraiment ils nous feront trop chier, on pourra essayer de trouver une autre ville avec cette bibliothèque et en amenant en contrepartie cette bibliothèque.
Merci. Quelqu'un veut préciser quelque chose ?
Oui, je peux préciser parce que j'ai oublié d'en parler. Effectivement, nous avons une bibliothèque à la Maison de la Poésie de Montpellier qui n'est pas aussi développée que la vôtre, puisqu'il y a environ 5000 titres, mais elle a été constituée, alors elle est magnifique, elle recèle des pépites d'ailleurs, et elle a été constituée par les dons des poètes eux-mêmes, notamment Frédéric Jacques Temple qui nous a donné une grande partie de sa bibliothèque, un professeur d'université, un libraire... Voilà plein de choses. Et puis, il y a tous les achats que nous faisons au jour le jour, bien entendu, puisque nous travaillons sur l'actualité de la poésie. Et elle est extrêmement riche. Alors, pour l'instant, on n'a pas, si vous voulez, mis en place de prêts de livres, parce que c'est vraiment très, très lourd à instaurer, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elle est ouverte, hein, lors de ce qu'on appelle, nous appelons les permanences poésie, où un poète ouvre la maison de la poésie pour informer les gens qui veulent s'informer, bien entendu, comme n'importe quelle ressource, mais aussi pour la lecture des textes et la découverte de la bibliothèque. Et nous avons instauré un cycle de lecture qui s'appelle « Le plaisir du texte », qui est pris en charge par des poètes. Et donc, chaque poète fait, au fil des saisons, découvrir les trésors du fond de la Maison de la Poésie de Montpellier. J'ai oublié de préciser que parmi nos poètes adhérents, puisque nous sommes une association, vous savez qu'il y a un vivier de poètes extraordinaires à Montpellier. Nous avons des gens comme Michael Gluck, Jam Sacré, Laurent Grison, Anne-Marie Jean-Jean, les jeunes poètes aussi qui fréquentent notre maison et que sont Lily Frick, Sandrine Knut, etc., Guillaume Balaguer. Donc nous avons des poètes qui viennent et qui, et qui sont, j'allais dire, qui sont aussi partie prenante de tout le travail que nous pouvons faire dans ce lieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à souligner aussi. Voilà, qui sont fournisseurs de la bibliothèque.
C'est le cas de la Biennale également, puisqu'on a, on a un fonds important aussi de poésie, et on a en partie, récupéré le fonds de poésie du département, qui était dans une bibliothèque du département. Donc on a 4000 livres de poésie. Le problème, c'est qu'il n'est pas encore informatisé et qu'on n'est que deux à travailler sur la Biennale et que c'est compliqué de faire une bibliothèque en tant que telle. Mais on peut, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez prendre rendez-vous et venir consulter les livres sur rendez-vous. Voilà. Et c'est vrai que pour nous, c'est important aussi la confrontation du passé et du présent, ce qui est écrit dans le passé et dans le présent, comme c'est super important aussi la confrontation entre les poésies d'autres langues, d'autres pays, et la poésie qui s'écrit aujourd'hui ici. Voilà.
Alors une autre... juste pour conclure, pour notre part aussi, on a modestement commencé une poétothèque, mais on s'est mis en partenariat avec la médiathèque, qui est elle-même beaucoup plus balèze que nous pour couvrir les ouvrages, pour les protéger, etc. Et tout passe par un système informatique qui est dans leur manque de données. Mais on développe chaque année, et on va développer le plus possible cette poétothèque, avec aussi une audiothèque, c'est-à-dire qu'on enregistre aussi toutes les voix de poètes qui sont en résidence ou qui passent chez nous.
Alors, monsieur.
Oui, je voulais poser la question des résidences d'écriture poétique. Il y en a pour le cinéma, il y a le Moulin d'Andé, il y en a quelques autres. Quid de la poésie ? Où est-ce qu'il écrit un poète ? Dans sa mansarde, baigné par les rayons de lune, enfin, voilà.
Il a terminé par un rayon de lune.
Mais c'est bien, parce que ça répond directement à ce qu'on demandait tout à l'heure avec le CNL et l'aide, les bourses d'écriture qui pouvaient être données par le CNL pour des résidences de poésie. Et c'est vrai que jusqu'à présent, de par notre histoire, nous avons eu plusieurs romanciers qui sont venus en résidence chez nous avec des aides du CNL. Et trois fois où on a fait des demandes par rapport à la poésie, nous n'avons pas eu l'aide du CNL, pas de bourse. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'un peu étrange. Alors c'est peut-être quelque chose qui n'était pas leur choix, qui n'était pas leur goût, mais je me rendais compte qu'il y avait une sorte de désavantage par rapport à la vision de l'écriture poétique. Et aussi les résidences, peut-être les temps des résidences, puisque les résidences sont de 2 mois minimum, peut-être que ça ne convenait pas au format poétique, je ne sais pas. Donc du coup, on se bat, nous-mêmes, pour associer à des projets de création ou des projets des résidences d'auteurs. Et on essaye de trouver des partenariats pour qu'il y ait des résidences d'auteurs avec un principe d'une bourse de 2000 euros par mois et avec un partenariat qui ne prenne pas plus de 25% en action artistique en respectant les règles du CNL de manière à ce que le poète puisse vraiment écrire sur place. Donc on met en place tout doucement mais avec les faibles moyens et avec une DRAC qui est assez réticente encore pour donner des moyens pour ce genre de résidence.
J'ai parlé tout à l'heure de la résidence de Omar Souleymane. C'est une résidence qui est donc... financé par le conseil régional en Île-de-France. C'est vrai qu'il finance un certain nombre de... Cette année, je crois, c'est 25... Il y a eu 25 résidences qui ont été financées. Donc, ce qui est intéressant aussi pour les poètes, parce que Omar a eu une résidence de 10 mois, payée 2000 euros net par mois. Donc, ça permet de voir venir, surtout pour quelqu'un qui est réfugié. Voilà. Et pour l'association, sur les 10 mois, on touche 5000 euros pour accompagner, organiser les choses autour de ça. Je dois dire qu'on a aussi l'aide de la DRAC, Île-de-France. C'est d'ailleurs ce qui nous tient bien. On a l'aide de la mairie du 18e, parce que c'est notre port d'attache, je dirais. Et rien de Paris et plus rien de CNL depuis 3 ans maintenant. Ou 2 ans. Ou 3 ans. Enfin, voilà. Donc, pour le CNL, on n'existe plus. On a existé pendant 30 ans, mais c'est fini.
Alors, tu voulais répondre ?
Non, juste pour...
Vas-y.
On accueille des poètes en résidence assez régulièrement, puisqu'on chaque année, on dépose un dossier avec un poète. Un poète qu'on connaît bien, avec lequel on a déjà travaillé, avec lequel on a une relation assez privilégiée. Et on a accueilli très récemment, pendant 10 mois, une poète franco-argentine qui s'appelle Roxana Paez. Et on accueille, une résidence va commencer avec la poète syrienne, qui vit depuis très longtemps en France, Maram Al-Masri. Voilà, et c'est donc à chaque fois, ce sont des résidences de la région Île-de-France également. Voilà.
Vous vouliez poser une question ?
C'est les mêmes conditions.
Oui, je voulais juste dire en deux mots qu'on a entendu beaucoup de mots. Et bon, Marc, en tout cas, me connaît bien. Et c'est que, bon, je connais bien ce monde. Parce que j'en fais partie depuis très longtemps.
Tu as l'habitude.
Oui.
Parle dans le micro.
Oui. Et, non, simplement, il y a un mot qui n'a pas été évoqué, c'est le mot de résistance. Et je pense que la poésie, c'est aussi le lieu de la résistance à tous les pouvoirs, à tout ce qui nous, lie les ailes et la pensée et l'imaginaire. Et aussi, comme c'est un travail sur la langue et que le pouvoir, c'est aussi, ça passe aussi par la langue, c'est très important ce partage de la parole dans les publics divers, les publics populaires entre autres, qui n'ont pas la parole. Et c'est bien pour ça que le pouvoir en profite. Et donc, ce lieu de résistance, il est très important parce que c'est une intensité aussi. C'est une intensité de vie, une intensité de pensée, une intensité de rêve. Voilà, et qu'il faut multiplier. Et donc, voilà, c'est parce que le mot de résistance n'était pas apparu dans vos conversations. Sinon, bon, j'ai bien entendu le tout et je suis d'accord. Mais voilà, ce mot me paraît très important et surtout aujourd'hui. Voilà.
Alors, avant de vous laisser répondre pour de dernières réponses, puisqu'on va bientôt terminer, Emmanuel Ponsard. Ah.
Non, je voulais juste revenir simplement... sur les résidences, puisque ce sont les états généraux de la poésie, bon, je pense qu'il faut faire aussi des propositions. Moi, je militerais beaucoup quand même pour qu'il y ait des résidences qui s'appellent des résidences de création, puis d'autres résidences qu'on appelle, je sais pas, des résidences sociales où effectivement on va faire un travail. Enfin, on envoie un poète faire un travail dans un hôpital, dans une prison, dans une école, un peu partout. Je trouve que ce que j'applique au CIPM quand on accueille des écrivains en résidence, c'est une résidence de création, c'est-à-dire un lieu, une bourse et un temps pour écrire. Si par ailleurs l'auteur qu'on a invité en résidence a envie, on lui propose bien sûr d'aller faire un atelier dans une école ou dans une prison, il y a beaucoup d'endroits où ils peuvent faire des ateliers, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que c'est à la carte, et s'ils le font, c'est payé en plus. Voilà, parce que cette espèce de mot de résidence où tout d'un coup, ce n'est pas une résidence, c'est une espèce de salariat un peu déguisé, mais où on ne paye pas de cotisation sociale, qui est un peu bizarre, et où on envoie des gens au front qui ne sont pas forcément formés pour ça, qui n'ont pas forcément l'habitude de faire ça, qui n'ont pas forcément l'envie de faire ça. Je trouve que c'est pas correct. C'est-à-dire, on envoie des gens, bon, et c'est sûr, ils ont besoin d'un peu de pognon pour travailler, pour créer, etc. Et donc, ils acceptent malgré tout ça. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des résidences de création. Et puis, effectivement, s'ils ont envie et tout, il y a en plus un travail, pas salarié, mais un travail qui est rémunéré en plus pour ça, pris sur leur temps de résidence.
Oui, je trouve ça assez juste aussi. C'est vrai qu'actuellement, la région prévoit alors 70% pour l'écriture et 30% pour l'action auprès du public, etc. Bon, et moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de raison de demander un petit, comme ça, quelques actions. Il faut vraiment que ce soit la volonté du poète et que, voilà, et que déjà, effectivement, écrire la poésie, c'est important en soi, quoi. Il n'y a pas... On n'a pas besoin de prétexte autre.
Là, on a
je nous, voudrais on a deux... poser une question. Je voudrais poser une question à Sandrine Gironde pour Poema, parce que je suis très admirative du travail que vous faites sur toute une région qui, en plus, s'est agrandie aujourd'hui. Et j'aimerais bien avoir un retour sur, justement, comment ça se vit au quotidien, ce maillage... De tous ces lieux dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont à la fois des médiathèques, des centres culturels, etc., tout ce que tu as énuméré, et comment le public circule d'un lieu à l'autre, et s'il circule.
Ouais, donc je vais répondre à ta question par le démarrage de Poema. Quand on a décidé, donc, parce que ce que j'ai oublié de dire et qui est important, c'est que je coordonne Poema avec Franck Doyen, on est deux pour l'instant, on sera trois l'année prochaine. C'est quand on s'est posé la question en 2014, voilà, on a envie de défendre et de diffuser la poésie un peu partout. Comment on fait ? Donc, on cible des lieux, hein, les lieux que je citais tout à l'heure, et on se disait d'office, on s'est dit d'office, il faut qu'on fasse un truc important. Il faut que Poema, dès 2014, soit important en termes d'amplitude. Géographique, d'action et aussi d'amplitude temporelle. Parce que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ça commence en janvier et ça termine en juin. Donc ça dure 5 mois. Et en fait, on se disait que si on faisait quelque chose d'important, on aurait une visibilité. Une visibilité vis-à-vis du public. Donc en fait, dès 2014... Le fait d'avoir de nombreux partenaires extrêmement diversifiés et un public extrêmement aussi différent, de territoires divers, a fait une espèce d'alchimie, en fait, au sein des régions, de la région, et qui a fait que, ben voilà, c'est Poema est devenu vraiment un événement important dans le paysage culturel et artistique de cette nouvelle région. Et auprès des partenaires, y compris des partenaires financiers et institutionnels. Et moi, je voudrais... Nous, on ne voudrait absolument pas d'un lieu fixe. Parce que moi, je trouve ça extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un problème de public. Hein, c'est qu'il faut suffisamment être inventif, actif, pour que le public soit toujours présent. Et on se doit que le public soit là, hein, avant tout aussi pour l'écrivain invité. Non, c'est bien, ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'argent, parce qu'on se déplace beaucoup, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes, et que, et qu'en fait, on est obligé de s'adapter à tous les rythmes et les façons de fonctionner avec tous les partenaires qui sont encore une fois, mais vraiment extrêmement différents dans leur façon de fonctionner, d'inventer, de proposer. Et donc voilà, le principal avantage, effectivement, auquel on tient, c'est que c'est riche, c'est dense, et le public est toujours renouvelé.
Alors, pardon.
Parce que moi, j'ai une vision un petit peu différente.
Parle bien dans le micro.
Oui.
On va arrêter après.
En fait, la Biennale, depuis qu'elle existe, doit être itinérante. Les élus veulent absolument. Alors ça, c'est la seule condition. Mais c'est une condition importante, c'est que la Biennale ait lieu dans tout le Val-de-Marne. Elle a lieu aussi dans d'autres, maintenant à Paris ou dans d'autres villes d'Île-de-France, mais qu'elle ait lieu un peu partout dans le Val-de-Marne et pendant le festival. Et moi, je trouve que c'est une erreur parce que pendant le festival, c'est trop éclaté. Ça ne permet pas de vraies rencontres. Moi, je pense que le plus important, c'est dans l'année de couvrir le territoire et d'avoir un événement fort dans un lieu. Et je pense que ce serait beaucoup plus efficace. Mais bon, ça, c'est mon point de vue.
Oui, non, je voulais...
Pardon ? Ça se contradit pas. Non, en fait, c'est une expérience dans un lieu déterminé. Dans le Grand Est, ça peut être complètement différent. Ouais. Oui, oui.
Vous finirez de dialoguer toutes les deux plus tard. Annie, le mot de la fin pour toi, puis après, on va essayer de faire le mot de la fin pour tout le monde. Une minute maximum pour chacun. C'est trop ? Tu ne parleras pas, Marc.
Non, puisque ce sont les états généraux de la poésie. Là, moi, je voudrais dire quand même que c'est... Effectivement, moi, je vais conclure sur une note optimiste, parce que c'est vrai qu'on a connu aussi le nomadisme, on a connu un peu la dispersion et l'éclatement de l'itinérance, comme tu le disais. Et puis, à un moment donné, le fait qu'il y ait un lieu qui permet une grande, grande liberté, du coup, parce qu'on n'est plus tributaire de personne, et qu'on peut installer dans la durée la fréquentation de la poésie et vraiment la faire repérer par l'ensemble du public, c'est important. Donc nous, on veut garder absolument les deux aspects, c'est-à-dire il y a bien sûr la programmation à l'année, d'octobre à juin, et puis il y a les temps forts comme le printemps des poètes, il y a tout ce que l'on fait tout le reste du temps dans l'ensemble du territoire de la métropole avec le réseau des médiathèques, par exemple. Je crois qu'il faut garder les deux et surtout éviter les pièges de se figer effectivement dans un lieu. Il ne faut pas se replier. Et puis, il faut en même temps élargir à tous les publics et le terrain, évidemment, bien sûr, les usagers des médiathèques, les écoles, etc. C'est très, très important de les atteindre aussi par des actions ponctuelles.
Nelly, ton mot de la fin pour ces états généraux.
C'est toujours difficile, le mot de la fin. Bon, je vais y réfléchir un peu. Non, je vais Marc, il y a un mot de la fin.
Ah ben non. Bon, bah, pas de mot de la fin, bon. Nelly.
Non, bah, le mot de la fin, pour ce qui me concerne, je vais le laisser à un très grand écrivain, peut-être vous connaissez, Bohumil Hrabal, qui était un grand écrivain tchèque. Et pour aller dans le sens de ce que Sandrine et Nelly disaient, elles étaient d'accord, mais elles donnaient l'impression de ne pas l'être, mais elles étaient d'accord sur la nécessité de la poésie. Il a cette phrase absolument définitive qu'il a répétée dans plusieurs de ses romans. Ce qui est le plus beau en art, c'est que personne n'est obligé d'en faire.
Sandrine ?
Non, mais c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Moi, je laisse mon mot de la fin à ce qui vient d'être dit.
Patrick ?
Bon, juste pour revenir à ce que disait la personne qui n'est plus là, malheureusement. Je crois qu'il serait important de quitter la résistance et de passer à l'action. Et je crois que la poésie est pour moi ce lieu d'invention, de proposition nouvelle, et qu'on est à cet endroit-là et qu'on doit arrêter d'enterrer les morts.
Ben, merci. Merci à vous d'avoir été attentifs et actifs. Merci à nos invités. Le marché de la poésie continue. Les états généraux continuent également. Et je rends la parole à Vincent Gimeneau.
Ben, merci à tous. J'ai oublié tout à l'heure, en présentant Thierry Renard, de dire qu'il était responsable de l'espace Pandora, qui est aussi un lieu à Lyon, un lieu de poésie. Il est aussi, par ailleurs, responsable d'une maison d'édition qui est la Passe du Vent. Merci à tous. Et puis, les choses vont continuer. À 19h30, nous allons faire une rencontre en Luxembourg avec Jean Portante et Pierre Joris, le temps de réinstaller la scène.
1, 2, 1, 2, ça marche.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Et celui-là, est-ce que je l'entends? Non, je n'entends pas celui-là.
One, two,
à chaque
three.
Fois, Bernard me coupe mes micros.
moins.
Eh bien, nous voici réunis à nouveau pour cette fois-ci une rencontre en Luxembourg avec Pierre Joris et Jean Portante, qui sont des grands amis.